Alors, il n'y a pas longtemps, un gros titre dans une magazine a attiré mon attention. Ça disait 10 raisons pour les hommes de ne pas se marier. 10 raisons pour les hommes de ne pas se marier. Alors, même si je savais d'avance que le contenu serait nul, je confesse que j'ai feuilleté l'article malgré moi, et en le lisant, j'ai découvert 10 conseils qui reflètent bien la dégradation de notre société, notre culture, par rapport au mariage. L'auteur m'a averti que si je mariais, ma femme arrêterait de prendre soin de son apparence et deviendrait moche pratiquement tout de suite. Une fois mariées, les femmes se fichent complètement de leur look. Mais pire encore, j'ai appris que si je me mariais, ce serait plus difficile pour moi d'avoir des liaisons. Autrement dit, on ne peut pas déshonorer sa femme avec autant de facilité qu'avant. J'ai appris aussi qu'un mariage, ça coûte très cher. Bien sûr, une voiture, une maison, de la nourriture, les vacances, les impôts, ces choses-là ne comptent pas. Mais l'idée de dépenser quelques euros sur un mariage, oh là là, c'est trop cher. Ensuite, l'auteur de ces absurdités m'a aussi expliqué que le mariage n'était qu'un document et de rien de plus. Rien de plus. Ce n'était pas un engagement solennel. Ce ne fournit pas de sécurité dans la relation ni de stabilité pour les enfants. Ça ne protège pas le couple. C'est juste un document. Mais est-ce que vous saviez aussi que le mariage étouffait la créativité et la spontanéité aussi? Selon l'auteur de cet article, qui n'a probablement pas beaucoup d'expérience en termes de mariage, la vie devient immédiatement ennuyeuse dès qu'on dit oui ou je le veux devant le maire. Mais pire encore, le mariage entraîne inévitablement une horreur inimaginable. Le compromis. Le compromis. Je ne plaisante pas. Ça veut dire qu'il faut respecter sa conjointe, l'écouter et l'aimer aussi. Ça implique la fin de notre égoïsme pathologique, malheureusement. Et puis j'ai appris quelque chose d'autre que je ne savais pas, même après 12 ans de mariage. C'est que le mariage implique la fin de la sexualité dans le couple. Je ne sais pas d'où sont venus mes 4 enfants, mais selon l'article, ça n'a rien à voir avec les relations sexuelles dans le couple. Après tout, ces révélations déprimantes, l'auteur ajoute que le mariage, ça finit généralement mal. Donc pourquoi s'engager sur ce chemin douloureux? Et puis l'auteur me dit qu'il ne pourrait pas imaginer une vie moins intéressante qu'une vie de marié. Il me l'avait déjà dit, c'était son 5e point, rappelez-vous. Mais il me le rappelle juste au cas où j'aurais oublié que ma femme m'ennuyait. Et enfin, il reconnaît que le mariage est censé être pour toujours. Mais toujours, c'est too much, n'est-ce pas? C'est trop. Nos goûts changent inévitablement. On a besoin de changer de femme comme on change de style vestimentaire en fonction de la mode. Vous voyez, les pensées de cet auteur reflètent le pessimisme général de notre société par rapport au mariage. Pour le monde, le mariage ne convient pas à notre égoïsme. Mais pour moi, en tant que chrétien, le mariage n'est pas censé être centré sur moi ou sur mes désirs. Il n'est même pas centré sur ma femme ou sur ses désirs. Le mariage chrétien doit être centré sur le Seigneur, sur Jésus-Christ. Et c'est là tout le sujet du texte qu'on va lire dans le cadre de notre série de messages dans l'Épître aux Éphésiens. Donc on va lire aujourd'hui, on va étudier Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 33. Éphésiens 5, 21 à 33. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme le propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Guide-nous dans notre étude de ce texte et aide-nous à mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ce texte peut être divisé naturellement en trois parties. Et je commence par les versets 21 à 24. Ces versets emploient un gros mot, vous savez déjà, mais je vais le lire. Ou dire parce que c'est dans le texte, et c'est le mot soumission. Soumission. Je m'adresse aux femmes maintenant. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous devrez passer toute votre vie dans la maison ou dans la cuisine. Ça ne veut pas dire que vous n'existez que pour le plaisir sexuel des hommes, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de parler, ou que vous devez porter une couverture sur la tête. Je vous assure que ça ne veut pas dire que vous avez moins de valeur que des hommes. Regardez le verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ce verset ne s'adresse pas seulement aux couples chrétiens. Dans ce verset, l'apôtre Paul parle à tous les chrétiens. J'ai décidé d'inclure ce verset dans la section sur le mariage parce que ça fait une bonne transition avec la section précédente qui nous disait « Donnerai le Saint-Esprit qui demeure en nous ». Ici, la soumission implique que les priorités de Dieu et le bien de son Église doivent avoir plus d'importance pour nous que nos propres priorités et notre propre bien. Et donc, quand le texte appelle les femmes à être soumises chacune à leur mari, comme au Seigneur, ce que ça veut dire, mesdames, c'est que vous devez reconnaître l'autorité qui existe dans la création et respecter votre Seigneur et Sauveur Jésus en respectant votre mari. Plutôt que l'obéissance, le texte implique l'humilité chez la femme. Le fait de se soumettre veut dire que la femme reconnaît volontairement l'ordre de la création. Elle valorise le rôle de son mari dans la création. Elle recherche l'harmonie dans sa relation avec son mari. Mais la soumission n'est pas un assujettissement opprimant. La Bible ne demande pas aux femmes de renoncer à leur liberté, à leur volonté, à leurs aspirations. Selon ce texte, par contre, la soumission sert à promouvoir la stabilité et l'harmonie dans la relation de couple. Ça crée une vraie liberté sous l'autorité bienveillante et aimante de Dieu. J'apprends un exemple au pasteur et théologien John Piper. Il dit « Imaginez deux personnes qui décident de faire un saut en parachute. La première saute de l'avion avec son parachute sur le dos. Et bien sûr, ça l'encombre un peu d'avoir ce parachute lourd et gênant sur le dos. et de devoir porter un casque et des lunettes de protection. Mais bon, elle comprend que sans ces équipements, ce serait la mort certaine. Mais la deuxième personne, ce qu'elle recherche, c'est une sensation d'autonomie et de liberté illimitée. Et donc elle saute sans parachute, sans casque, sans lunettes. Elle est complètement libre, elle est autonome. Elle ne dépend de rien ni personne, mais ça finit mal, n'est-ce pas? Finalement, elle n'était pas si libre qu'elle le pensait. Elle n'a pas pu s'affranchir à la loi de la gravité. Et de la même manière, nous vivons souvent en recherchant la sensation de l'autonomie et de la liberté, sans reconnaître que la vraie liberté consiste à se conformer aux réalités et aux priorités de Dieu. La plus grande liberté se trouve dans le plan conçu et créé par Dieu. La soumission implique d'avoir un esprit disposé à respecter ce que Dieu a établi pour le bien du couple. D'un point de vue pratique, ce n'est pas toujours évident, la soumission, n'est-ce pas? Il est probable que si votre mari ou votre futur mari est comme moi, il fait ou fera des bêtises. Il est parfois insupportable. Il est pécheur. Il est impatient, des fois. Il ne vous aime pas toujours très bien. Mais la soumission biblique ne vous oblige pas à suivre le leadership de votre mari dans le péché. Avec un esprit de soumission, vous allez vous soumettre à Christ contre la volonté pécheresse de votre mari. Autrement dit, vous allez montrer par votre attitude, par la bonne disposition de votre cœur, que vous n'aimez pas suivre votre mari dans le péché, que vous aspirez à l'harmonie dans votre couple et un leadership qui reflète la justice de Dieu. En revanche, on peut se soumettre joyeusement à quelqu'un qui nous aime d'un amour pur et authentique. Ça, c'est exactement comment on se soumet à Christ, qui nous a rachetés par son grand amour envers nous. Ces principes qui consistent à rechercher humblement l'harmonie et à respecter les autorités placées sur nous par l'autorité de Christ s'appliquent à toutes les femmes. À toutes les femmes. Celles qui sont mariées, celles qui aspirent à être mariées, celles qui ne se marieront jamais. Vous voyez, messieurs, que la soumission marche très bien dans une relation centrée sur Christ. Et les versets 25 à 27 nous appellent, nous les hommes, à aimer notre femme, notre future femme, comme Dieu aime l'Église. Et comment est-ce que Dieu a aimé l'Église? Ou autrement dit, quel genre d'amour devrions-nous imiter? Ces versets nous disent, je pense, deux choses. Premièrement, l'amour de Dieu est un amour sacrificiel. Il a tant aimé l'Église qu'il a donné son Fils unique pour elle, n'est-ce pas? Les 14 premiers versets d'Éphésiens chapitre 1 expliquent bien comment notre Dieu trinitaire a décrété le salut de son Église avant la fondation du monde. Ça explique comment Dieu nous a sauvés en Christ, qui a subi la punition que nous méritions, nous qui sommes pécheurs. Ça explique comment Dieu nous a scellés du Saint-Esprit, garantissant ainsi notre salut. Et donc l'amour de Dieu est fondé sur son caractère. Et il se manifeste dans les trois personnes de la Trinité qui nous aiment d'une manière sacrificielle. Et ensuite, le verset 26 ajoute que l'amour de Dieu est un amour qui sanctifie. Donc c'est un amour qui est sacrificiel, mais ça sanctifie aussi. Ça veut dire qu'il nous met à part, il nous sépare des autres, il nous réserve pour lui-même en quelque sorte, il nous purifie, il nous déclare saints à ses yeux. Il nous atteste cet amour qui nous sanctifie par le signe qui est le baptême. C'est ce que Paul fait référence, c'est à ça que Paul fait référence à mon avis dans ce texte, dans le verset 26. Quand il parle de la purification par l'eau, ce signe visible qu'est le baptême nous pointe vers l'amour de Dieu qui nous rend purs à ses yeux. Un amour qui nous est présenté dans sa parole. Donc, encore une fois, l'amour de Dieu, dans ce texte, est un amour sacrificiel et c'est un amour qui purifie. C'est un amour qui a pour but notre bien. Ce n'est pas surprenant que Dieu aime comme ça. Ce qui est surprenant, c'est l'objet de son amour. La Bible nous dit à plusieurs reprises que Dieu a aimé en l'Église quelque chose de moche et de méprisable. Une Église qui est composée de rebelles qui ont péché contre la sainteté de Dieu. N'oubliez pas qu'aux yeux de Dieu, notre péché est quelque chose d'abominable et d'infect. La puanteur de notre péché est insupportable. Pardon de vous dire ça, mais aux yeux de Dieu, nous ressemblons en tant que pécheurs à une grosse prostituée boutonneuse, toute laide, atteinte de toutes sortes d'infections. C'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a agi envers cette prostituée en donnant sa vie pour elle. Par sa grâce, par son grand amour, il a purifié, il a transformé. Messieurs, je vous assure qu'il y aura des jours où votre femme ressemblera par son comportement à une vraie sorcière. Mais n'oubliez pas la façon dont Dieu a aimé son Église, dont nous fait partie. C'est à vous d'imiter Christ en aimant cette sorcière insupportable. C'est à vous de créer un environnement harmonieux où elle pourra l'épanouir dans votre amour. Et ça nous amène à la troisième partie de ce texte. C'est le verset 28 à 33. Ces versets nous parlent de la relation entre le mari et la femme. Mais ni le mari ni la femme ne sont les personnages principaux dans ces versets. Cette fois, le texte nous parle d'une unité centrée sur Christ. Et comme on l'a déjà vu, l'unité est une idée très importante dans le texte d'Éphésiens. La Trinité est un Dieu unifié, on a vu ça dans le chapitre 1. Jésus le Christ est uni à son Église. On a vu ça dans le chapitre 3. Cela rend possible l'unité entre les membres de son Église, le chapitre 4. Et maintenant, le mariage implique une unité profonde dans le couple. Le langage de ces versets est très fort. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ou encore, l'homme s'attache à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Paul emprunte ce langage de Genèse chapitre 2. Mais vous voyez que cette unité dans le couple est instituée par Dieu dès le commencement. C'est mystérieux, comme le dit le texte. Mais cette unité nous concerne au niveau ontologique. Et ce que ça veut dire, c'est au niveau de notre être, qui nous sommes. Le mari et sa femme sont liés l'un à l'autre par un engagement solennel et définitif. Ils sont liés d'une manière complémentaire. Ils ont une valeur égale aux yeux de Dieu, qui les a créés à son image. L'homme n'est pas supérieur à sa femme, pas plus que le Père est supérieur au Fils, ou que le Fils est supérieur au Saint-Esprit. Et le mari doit aimer sa femme, son égal en termes de valeur, comme son propre corps. J'espère que vous appréciez la gravité, la beauté de cette métaphore dans le texte. Selon le texte, l'homme et sa femme constituent un seul corps. Si on le coupe en deux, ça cesse de fonctionner. C'est pourquoi le divorce est tellement grave dans la Bible. Le divorce est une forme de mutilation, puisqu'on coupe le corps en deux. Comprenez bien que le divorce est un affront à l'unité qui existe dans la Trinité. C'est un affront à l'unité qui existe entre Christ et son Église. C'est la même chose pour toute forme d'abus physique ou émotionnel dans le couple. Vous qui cherchez à blesser exprès votre époux ou votre épouse, vous faites du mal à cette personne, mais vous vous faites aussi du mal à vous-même. Vous vous moquez de l'image de Dieu dans le couple. Vous déshonorez Christ et l'Église à laquelle il est uni. Vous voyez que vous n'occupez pas la position la plus importante dans le couple. Votre époux, votre épouse n'occupe pas non plus la position la plus importante dans le couple. Cette position, c'est Jésus le Seigneur qui l'occupe. C'est lui qui joint le mari à la femme et la femme au mari. Alors pour conclure, Éphésiens 5, 21 à 33, il répond parfaitement, je pense, au pessimisme du monde par rapport au mariage. Parce que ce texte nous décrit un genre de relation qui est indispensable à la bonne marche de la société, qui sert d'exemple vivant et visible de la relation entre Christ et son Église. Ça nous montre comment nous, des êtres imparfaits, nous pouvons respecter quelqu'un d'autre, comment nous pouvons aimer bien, comment nous pouvons vivre dans l'altruisme, dans la stabilité, dans l'harmonie. Ça nous rappelle qu'il y a des choses plus importantes que nous-mêmes et nos propres désirs dans la vie. Malgré le pessimisme de l'article que j'ai cité tout à l'heure, le mariage est un bel engagement, institué par Dieu pour notre bien, et qui sert de modèle de l'amour de Dieu, offert aux yeux du monde. Mesdames, souvenez-vous que Jésus le Fils s'est soumis à la volonté du Père, et par cette soumission, il vous a racheté de la mort. Et messieurs, souvenez-vous que Dieu a aimé quelque chose d'aussi horrible que le monde et qu'il a manifesté cet amour en se sacrifiant lui-même à votre place. Le mariage sert de métaphore ici-bas de l'œuvre rédemptrice de Dieu à la croix. Que vous soyez marié ou non, chaque fois que vous observez cette belle institution, n'oubliez jamais qu'elle pointe vers Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour cette institution qui est le mariage et qui sert à nous rappeler ton amour pour ton Église. Aide-nous à protéger et respecter le mariage et tout ce qu'il représente, que nous soyons mariés ou non. Aide les hommes et les femmes à assumer leur rôle respectif afin que nous créions l'harmonie dans le couple et dans l'Église pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.